À Toulouse, 31 à Ajaccio, La Rochelle et Lyon, vous aurez 30 à Paris, Rennes et Reims, 28 à Lille et Metz, 25 à Brest et 22 à Cherbourg.
Merci Marina. Mercredi 18 juin, un petit nouveau dans la musique, Paul McCartney, il fête aujourd'hui ses 83 ans. Ces innombrables merveilles et des dizaines de merveilles composées par cet artiste géant, Paul McCartney, qui souffle aujourd'hui donc ses 83 bougies. Vous écoutez RTL, il est 5h.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous, Tom Lefebvre. Elle a une ce matin, l'immobilisation immédiate de toutes les Citroën C3 et DS3.
L'ensemble de ces voitures encore équipées d'airbags de la marque Takata après un nouveau décès en France lié à ces équipements défaillants. À suivre aussi Emmanuel Macron qui met en garde contre une intervention militaire des États-Unis en Iran. Les éboueurs de New York qui sont en grève, ils réclament de pouvoir travailler en short sous cette chaleur étouffante. Et puis la mort d'une figure de l'Olympique lyonnais, Bernard Lacombe, il avait 72 ans.
Dans un quart d'heure, RTL événement dans les eaux troubles de la mer Baltique ce matin, où l'OTAN a lancé une vaste opération navale pour protéger ses infrastructures énergétiques.
RTL Matin.
Plus de 440 000 voitures sont ce matin immobilisées en Europe. Il s'agit de l'ensemble des Citroën C3 et DS3. Interdiction de rouler, peu importe l'année de production, si elles sont encore équipées d'airbags de la marque Takata, responsable de la mort d'une femme la semaine dernière à Reims. Le deuxième décès en France métropolitaine, Christophe Bourreau.
Au total en France, 82 000 propriétaires sont désormais concernés par cette interdiction de conduire. Jusqu'à présent, l'obligation ne portait que pour les véhicules fabriqués avant 2014. Pour les autres, une simple lettre leur demandant de passer en concession. Mais face au coup de pression du ministre des Transports et pour éviter un nouveau drame, Citroën a donc décidé d'étendre la procédure à l'ensemble des modèles jusqu'en 2019. Au total, il reste donc pour Stellantis 209 000 voitures à traiter. Le groupe affirme avoir suffisamment d'airbags en stock pour procéder rapidement au changement, environ une à deux heures en concession. Alors concrètement, pour savoir si vous êtes concerné, soit vous pouvez aller sur le site du constructeur en entrant le numéro de la carte grise ou sur celui du ministère de l'écologie qui recense l'ensemble des véhicules touchés par cette vaste affaire, car au-delà de Stellantis, pas moins de 30 marques sont toujours impliquées.
Merci pour ces précisions, Christophe Bourreau, spécialiste automobile de RTL.
Dans l'actualité ce matin, cette question, Donald Trump va-t-il impliquer directement les États-Unis dans le conflit israélo-iranien ?
Le président américain en tout cas semble préparer le terrain. Hier soir, il a appelé l'Iran à une capitulation sans condition, disant, je cite, que sa patience arrive à bout. Il assure même savoir où se cache le guide suprême iranien. Un conseil de sécurité s'est tenu cette nuit à la Maison Blanche. Emmanuel Macron, de son côté, met en garde sur une éventuelle intervention militaire. Il parle d'un risque de chaos.
La plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran, parce que ce sera là le chaos. Oui à ce que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Oui pour contenir le nucléaire civil et l'encadrer de manière internationale. Oui pour réduire son programme balistique. Oui pour réduire toutes les aides aux groupes régionaux qui créent la déstabilisation depuis tant d'années. Non aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Non aux frappes contre les populations civiles. Et non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime. Parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée ? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée ? Non.
Emmanuel Macron, micro RTL de Bénédicte Tassard. C'est donc dans ce contexte que s'est achevé le G7 dans la soirée. On retiendra par ailleurs que les États-Unis se sont opposés à une déclaration forte sur l'Ukraine et une condamnation ferme de la Russie. Le prochain G7 qui se tiendra en France dans un an, c'est Emmanuel Macron qui l'annonce. Il aura lieu à Évian, en Haute-Savoie. L'actualité ce matin, c'est aussi la fin du conclave et il n'y a pas d'accord à l'issue donc de ce conclave sur les retraites qui devait s'achever hier soir. Il y aura même des prolongations, une journée supplémentaire lundi, donc le 23 juin. Certains partenaires partenaires sociaux dont le MEDEF et la CFTC n'ont pas encore décidé de leur présence. L'Assemblée nationale, elle, a adopté le projet de loi de simplification et donc la mesure controversée pour abroger les ZFE, les zones à faible émission, qui excluent certaines voitures polluantes. Le texte doit aller maintenant devant une commission de députés et sénateurs pour s'accorder sur une version commune.
Il va faire jusqu'à 35 degrés à Nîmes cet après-midi. La vague de chaleur s'est bien installée sur la France.
Je regarde la carte météo de Marina, c'est du soleil partout et des températures qui vont avec. Alors, ça fait plaisir à certains d'entre nous, un peu moins aux professionnels, ceux qui travaillent sous la chaleur écrasante tout au long de la journée. Et c'est notamment le cas des éboueurs. Ceux de Niort ont fait grève il y a quelques jours. Dans leur camion, il fait jusqu'à 50 degrés et ils ont interdiction de travailler en short. Ça ne peut plus durer, Johanna Chabas.
Les éboueurs ont repris la collecte des déchets pour ne pas pénaliser les habitants, mais ils sont une quinzaine à travailler en short malgré les risques de sanctions. Michael Billy, délégué syndical CGT, veut se faire entendre.
À l'arrière du camion, il y a la réverbération du soleil sur le bitume. Il y a le camion qui produit de la chaleur. Il y a des camions qui sont vétustes aussi, certains, qui n'ont pas de clim. C'est plus de 40 à 50 degrés, hein, certaines cabines. On a les moteurs des camions, ils sont sous la cabine. On monte dans un four, quoi. On veut travailler, mais on veut travailler dans des conditions.
Il demande un rendez-vous avec les élus de l'agglomération pour changer les règles, mais Jean-François Mougard, directeur général adjoint en charge de la collecte des déchets, insiste, le short restera interdit pour des raisons de sécurité.
C'est des risques de souillure avec des produits qui sont dans les poubelles, c'est des risques de coupures, pourquoi pas des morsures par des chiens qui courent après des rippers. Bref, la sécurité prime sur le confort, je crois.
Il assure qu'un rendez-vous sera bien pris avec le syndicat et pour les éboueurs qui ont travaillé en short, il promet des sanctions pouvant aller jusqu'à 3 jours d'exclusion avec retenue sur salaire.
Merci Johanna Chabas.
Et puis on a appris hier soir la disparition d'une figure du football français et de l'Olympique lyonnais surtout.
Bernard Lacombe est mort hier soir à l'âge de 72 ans. Il reste encore aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, Raphaël Vantard.
Oui, Bernard Lacombe, c'était le gardien du temple olympique lyonnais, l'incarnation d'un club où il aura été à tous les étages, joueur, entraîneur, directeur sportif, chef du recrutement. Avec ses petites fossettes, sa tignasse, son accent de Gaune, le jeune nanar a 10 ans lorsqu'il attend chaque dimanche son père boucher au hall des Cordeliers. Direction Gerland, le stade de Lyon, son stade. Ici, le jeune Bernard Lacombe rêve d'être l'attaquant du club. Il en deviendra la légende. Près de 500 matchs en première division, 255 buts. Pour Lyon, Bernard Lacombe aura tout fait, y compris se sacrifier. En 78, pour éviter la banqueroute de l'OL, il accepte d'être transféré chez l'ennemi à Saint-Étienne une seule saison. Et c'est avec les Girondins de Bordeaux qu'il remporte 3 titres de champion de France et l'Euro 84 avec les Bleus. Puis retour dans son pays, celui du saucisson, du Beaujolais. Jusqu'au bout, il aura continué d'aller au stade, de râler sur l'arbitrage, sur les joueurs nonchalants, sur la couleur verte, bien trop présente sur les vêtements à son goût. Oui, Bernard Lacombe, c'était l'OL et Lyon se réveille ce matin sans une partie de son âme.
Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Vous voulez un petit peu de sport ?
Oui. Oh bah avec plaisir, on adore.
Très bien, alors du basket, Marina. Le Paris Basketball se rapproche de son premier titre de champion. Très large victoire contre le tenant du titre Monaco, 94 à 82 hier soir. Les équipes vont se retrouver vendredi pour un match décisif. Et puis chez les femmes, c'est le début de l'Euro de basket en Grèce. Nos Bleus espèrent briser la malédiction depuis 2009. Elles terminent systématiquement deuxième ou troisième de la compétition. Cette fois, on espère, c'est la bonne. Le premier match, ce sera à 16h30 tout à l'heure contre la Turquie.
Votre champion du jour.
Ah, je suis presque sûr qu'il ne nous écoute pas ce matin. Il y a un petit chanceux qui a appris hier soir qu'il était multimillionnaire. Oh. Le jackpot de l'Euromillion a été remporté. Ça
d'accord.
Y est. Oui, vous savez, il y avait 250 millions d'euros. C'est pas des clopinettes. Cette même somme avait été remise en jeu 4 fois de suite. Alors écoutez bien, si vous avez joué le 13, le 22, le 23, le 44 et le 49.
Non.
Avec.
Non.
Alors
non,
attention, il manque les étoiles, le 3 et le 5.
Non.
Ah, c'est pas
c'est que c'est vous. Vous voulez savoir où ça a été gagné ?
Oui,
sur 7.
Évidemment.
Non, pas du tout.
Mais c'est moi.
Hélas, non, c'est en Irlande. En Irlande. Donc voilà, c'est un Irlandais, on dit bravo à lui, on lui dit mate to. Ça veut dire bravo en irlandais.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites si vous gagnez 250 millions d'euros? Vous continuez à travailler avec nous ou pas?
Oui, exactement, mais peut-être que je rachète RTL par la même occasion pour vous diriger tous.
Ah là là, merci beaucoup Tom Lefebvre. À 6h10 ce matin, de quoi entendra-t-on parler?
D'un nouveau sport à la mode dans les salles de fitness, ça s'appelle l'aerox. Vous allez découvrir cette nouvelle discipline.
On peut parler ce matin des vêtements parce qu'on est de plus en plus nombreux à acheter de plus en plus de vêtements neufs alors qu'on nous dit qu'il faut faire exactement le contraire, que ça pollue, que ça aussi fait pas mal de mal à notre économie, à nos marques de vêtements ici en France. D'après une dernière étude, les Français ont acheté l'an dernier 42 articles d'habillement neufs, c'est un de plus qu'en 2023. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous achetez plus de vêtements neufs? Est-ce que vous passez par les plateformes low cost type Chine ou Temu? On attend vos avis, vos témoignages, vos réactions au 3210.
Et on passe sur vos messages, notamment par SMS. On a un message de Georges. Georges est à Saint-Aubin en Charolais, c'est en Saône-et-Loire, où il fait 14 degrés. Il nous dit que le trafic est fluide. Bon, à cette heure-là, c'est normal. Et surtout, il passe le bonjour au chauffeur des transports Ludo Chrono. Le message est passé. Laurent est à Rodez. Le ciel est étoilé, il fait 18 degrés. On a aussi 18 degrés à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. C'est notre fidèle Bernard qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. On a Seren Turtle 762, c'est le pseudo.
Un sacré,
voilà, ouais. Qui est à Aréville en Haute-Marne où le ciel est clair et puis c'est assez agréable comme température parce qu'il fait 12 degrés. Donc c'est une fraîcheur qui en ce moment est plutôt à prendre. Mathieu lui a 36 degrés mais il n'est pas en France, hein. Il est au Japon, à Osaka plus précisément. Et puis Dominique à Saulieu en Côte d'Or à 16,2 degrés.
Merci Marina. Dans quelques minutes, on va vous emmener dans les eaux troubles de la mer Baltique à bord d'un navire de l'OTAN. Reportage assez exceptionnel. Un navire qui traque les sabotages russes sur les câbles sous-marins. Ce sera avec Vincent Serrano.
RTL.
Dans la presse ce matin, cette étrange histoire, assez sinistre aussi, il faut le dire, a relevé dans la Dépêche du Midi, j'ai vu ça, comment un retraité a déjoué une arnaque aux pompes funèbres. Robert a 76 ans, il habite Tarbes, il n'a pas été loin de tomber dans le panneau. Début juin, un démarcheur sonne chez lui, il est bien mis, il est rassurant. L'homme se présente comme un employé d'une entreprise de pompes funèbres et il est très inquiet pour Robert. La pierre tombale de Robert, située dans le cimetière nord de Tarbes, parce qu'il a déjà réservé donc sa concession, est considérablement abîmée. Alors il montre des photos, il y a des fissures, il y a une fente énorme, l'eau s'engouffre et pourrait détériorer le caveau. Alors Robert est désolé de voir ça, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé voir de ses propres yeux. Il faut dire qu'il a du mal à se déplacer, ce sont ses voisins qui y vont de temps en temps et ils ont bien remarqué, oui, une petite ébréchure, mais enfin comme pas un tel état de délabrement. Alors bon, Robert accepte un devis. Son visiteur revient quelques jours plus tard, toujours aussi bien mis et convaincant et poli, mais c'est sur le prix que Robert tique, 18 500 euros pour refaire la pierre tombale. Mais vous pouvez payer en trois fois, hein, sans frais d'ailleurs, le rassure le démarcheur, qui sera gentiment éconduit. Robert trouve curieux que sur le devis, il n'y ait que le nom de la société, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Alors, vérification faite, il s'agissait bien d'une tentative d'arnaque, mais on découvre donc l'escroquerie à la pierre tombale. C'est un type d'escroquerie qui se développe. Article à lire ce matin dans La Dépêche du Midi.
RTL, le podcast du jour.
On vous propose ce matin un extrait de Héros, l'émission de Faustine Bollard que vous retrouvez sur notre antenne tous les soirs à 20h. L'héroïne du jour s'appelle Laure et elle nous explique son métier assez atypique. Elle interprète la voix des bébés.
Alors concrètement, j'utilise le test musculaire.
Alors c'est quoi ?
Présentiel. Le test musculaire, c'est un outil qui a été découvert par un chiropracteur, donc qui est de la kinésiologie. Et donc je vais tester dans le bras du parent la résistance musculaire. Et en fonction de la résistance musculaire, je vais avoir un oui ou un non à ma question.
Ah bon ? Mais quel genre de questions vous pouvez poser au bébé ou c'est le bras du parent qui répond ?
Je pose tout type de questions.
Donc, ça peut être quoi ?
Par exemple, est-ce que tu portes une émotion ? Oui. Quelle émotion ? Est-ce que c'est de la colère ? Oui. Depuis quand ? Est-ce que c'était dans le ventre, à la naissance ?
Et à ce moment-là, l'énergie du parent réagit et vous apporte des réponses ?
Oui, c'est le corps du parent qui réagit.
Pour écouter la suite de ce témoignage étonnant, rendez-vous sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez « Héros ».
Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Pour en savoir plus sur cette maladie cardiaque génétique méconnue, rendez-vous dans un instant.
RTL Matin.
Donald Trump laisse planer le doute cette nuit sur une intervention militaire américaine en Iran. Il a réuni son conseil de sécurité après avoir demandé une capitulation sans condition de Téhéran. Il affirme que les États-Unis savent exactement où se trouve l'ayatollah Khamenei, mais qu'ils n'ont pas prévu de l'éliminer, du moins pour le moment, c'est ce qu'il dit. Emmanuel Macron, de son côté, met en garde sur une éventuelle intervention militaire. Il parle d'un risque de chaos. Après un nouvel accident mortel la semaine dernière en France, à Reims, Citroën demande l'immobilisation immédiate de toutes ces C3 et DS3 encore en circulation et qui sont équipés d'airbags Takata. Ça représente plus de 440 000 véhicules en Europe, dont 82 000 en France. L'explosion de ces airbags défectueux a fait 18 morts en France, dont 2 en métropole. Et puis les ZFE, les zones à faible émission, bien supprimées à l'Assemblée. Les députés ont voté le projet de loi dit de simplification, comprenant donc ce dispositif controversé qui est donc supprimé. Le texte doit maintenant être validé en commission mixte paritaire.
RTL événement.
On vous emmène donc ce matin dans les eaux troubles de la mer Baltique où l'OTAN, face à la multiplication des actes de sabotage, a lancé une vaste opération navale pour protéger ses infrastructures énergétiques. L'objectif, c'est de traquer la flotte fantôme de la Russie, soupçonnée d'être à l'origine de ces accidents sur des câbles sous-marins. Il y en a eu plusieurs. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour à tous.
C'est l'opération Ceinture de la mer Baltique, c'est le nom à laquelle participe donc en ce moment le chasseur de mines français L'Aigle, sur lequel vous avez pu embarquer pour RTL.
Oui, cette masse grise de 50 mètres de long qui flotte au large des côtes allemandes, la poignée ronde d'une porte blindée s'ouvre. Et c'est une véritable fourmilière qui s'active sous nos yeux dans les couloirs sombres et étroits du navire.
Poste de convoi, suite à la détection d'une embarcation sur l'avant tribord qui ne répond pas aux interrogations.
Alors on retrouve sur la passerelle le commandant Edouard. Vous venez de lancer une simulation pour préparer vos équipes au cas extrême, c'est-à-dire celui d'un navire qui ne répond pas à vos interrogations.
Oui, tout à fait. Lorsqu'on est en mer, on est toujours confronté au réel finalement. On est toujours armé. L'armement du chasseur de mines, il est établi comme ça par défaut avec nos munitions qui sont parées à être utilisées encore une fois à se reconfigurer en fonction des différentes situations. Mais c'est des interrogations VHF principalement qu'on va faire. Par exemple, un bâtiment de commerce, on va commencer par des interrogations sur sa cargaison, sur les membres de l'équipage, sur sa destination. On va vérifier la cohérence de ces informations et puis on va voir si on poursuit l'enquête. Pour éviter qu'il y ait à nouveau des agressions qui soient produites.
Surveiller sans provoquer.
À ceux qui auraient des intentions malveillantes de tourner autour de câbles, de poser nos enregistreurs, provoquer des sabotages sur des installations.
Combien d'interrogations du coup vous avez fait depuis votre déploiement il y a 3 semaines?
On a dû faire une vingtaine d'interrogations. Alors là, on a fait principalement sur des portes-conteneurs, des tankers.
Le chasseur de mines L'Aigle reçoit constamment de la part de l'OTAN des positions, des noms de navires, surtout soupçonnés d'appartenir à la flotte fantôme de la Russie. Ces navires qui laissent traîner leur encre au fond de la mer Baltique pour saboter des câbles internet, des câbles électriques ou des conduites de gaz.
Une flotte de l'ombre, Vincent, estimée à plus de 1300 navires, qui servent aussi à exporter le pétrole russe pour contourner les sanctions internationales.
Oui, alors impossible pour des raisons de sécurité d'indiquer notre position, mais un navire russe qui ne cherche pas d'ailleurs à dissimuler sa présence a été vu il y a peu près d'un détroit danois. Premier maître Jules, vous ne quittez donc pas des yeux cet écran qui diffuse en temps réel le trafic maritime.
Par rapport à ça, on repère sur la surface où sont les bâtiments. Par ces petits symboles verts là, on peut trouver toutes sortes d'informations sur ces navires. Donc leur numéro MMSI qui correspondent en fait à leur plaque d'immatriculation. Position, route et vitesse.
Là, on a plus d'une dizaine de bateaux qui sont autour de nous. On a un trafic qui est quand même assez intense.
Quand est-ce qu'on décide de lancer l'interrogation?
C'est aléatoire, mais on surveille ces traces-là pour voir si certains navires se sont arrêtés sur des points caractéristiques qui pourraient correspondre à une position d'un pipe ou bien d'un câble sous-marin.
Et sur le pont supérieur, on retrouve le premier maître Cyril. Alors vous êtes aussi entraîné, équipé surtout pour monter à bord d'un navire suspect et l'inspecter.
Tout à fait. Si demain on a un doute sur n'importe quel type de bâtiment, c'est une opération qui va s'effectuer avec une équipe qui est entraînée, qui est armée, et si on y va, c'est que le commandement de ce bâtiment est d'accord pour nous recevoir.
À la preuve que ce navire français n'est pas engagé par l'OTAN uniquement pour des opérations de signalement, mais bel et bien pour dissuader tout nouvel acte de sabotage.
Le chasseur de mines, L'Aigle, essentiel à l'OTAN, Vincent, puisqu'il peut aussi être appelé pour aller constater les dégâts sur d'éventuelles installations sous-marines.
C'est même sa force, condensée dans un mini-robot sous-marin jaune qui est envoyé à l'eau sous nos yeux, premier maître.
Nous sommes aussi ouvriers spécialisés dans le génie sous-marin. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on sait faire, et dans lequel aussi on développe forcément l'utilisation de drones avec des caméras embarquées qui nous permettent de vérifier l'intégralité d'une infrastructure. C'est carrément, complètement dans notre panel d'action possible.
On ne peut pas réparer.
Non, nos drones ne sont pas faits pour réparer. C'est plus pour la cartographie des fonds sous-marins. Il a un sonar embarqué. Il fait sa zone, il revient, on extrait les données, on peut voir tout ce qu'il a regardé sur le fond.
Et au besoin, on envoie des plongeurs parmi les meilleurs de l'OTAN aujourd'hui pour ce type d'opération.
Alors, nous pouvons plonger jusqu'à 2 fois par jour, 3 ou 4 fois dans des conditions particulières en fonction de la profondeur, du gaz utilisé et de l'enjeu. Notre force, c'est qu'on est très efficace avec des moyens extrêmement rustiques.
Que le chasseur de mine l'Aigle va continuer de mettre au service de l'OTAN en mer Baltique avant son retour prévu en France pour début juillet.
RTL événement signé Vincent Serrano, donc embarqué sur le chasseur de mines français l'Aigle. Reportage à retrouver évidemment sur rtl.fr.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
On achète de plus en plus de vêtements neufs alors qu'on nous dit qu'il faut faire attention et que de plus en plus de gens disent privilégier la seconde main. Et ben c'est pas ce que montrent les chiffres. Une dernière étude montre que les Français ont acheté l'an dernier 42 articles d'habillement neufs, soit un de plus qu'en 2023. Alors évidemment, c'est une moyenne, mais ça montre quand même une tendance.
Et on va en parler avec Catherine qui habite Belverne, c'est en Haute-Saône. Bonjour Catherine.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas trop seconde main, vous, hein ? Vous êtes plutôt neuf, c'est ça ?
Oui.
Oui ?
Oui. Je commande régulièrement sur les sites chinois, enfin Chine, ou Temu.
Oh là là, vous nous appelez sur un téléphone chinois aussi parce qu'on vous entend très mal. On vous entend très mal, Catherine.
Oui, mais j'habite un petit village, le réseau, c'est pas top.
Ah, bon. Donc vous commandez régulièrement sur les plateformes dont on parle souvent, alors Chine, Temu, c'est ça ?
Oui.
Et c'est une raison, c'est pour le prix en fait, c'est ça ?
Oui, c'est pour le prix. J'ai entendu qu'on appelait ça une mode jetable. Mais là, j'ai commandé récemment 3 robes. J'en ai qui datent de l'année dernière, aussi à peu près 3 ou 4, je les jette pas, je les mets régulièrement, je les lave, elles tiennent le coup, c'est un mode jetable pour moi.
Elles sont de bonne qualité et vous les avez eues à un prix intéressant ?
Bah oui, au tiers du prix que dans une boutique, par exemple Bonobo, j'avais fait à peu près la même robe chez Bonobo, elle faisait 3 fois le prix.
Ouais. Et c'est le plaisir d'acheter du neuf aussi, parce que la seconde main, il y en a de plus en plus, on en voit de plus en plus dans les magasins. Vous préférez tout de même le neuf ?
Bah, c'est plus pratique pour moi. Bon, moi je suis en province, des magasins de seconde main il y en a, c'est vrai, mais ça m'arrive d'acheter aussi en seconde main. Mais je trouve pas toujours aussi facilement
ce que vous voulez, en fait.
Voilà, oui.
Oui. Et puis en commandant sur les plateformes, vous êtes livré directement chez vous aussi. Il y a aussi cet avantage-là.
Oui, c'est ça.
Il y a une proposition de loi anti-fast fashion qui doit encore passer en commission mixte paritaire. C'est quand les députés et sénateurs se mettent ensemble sur un même texte qui prévoit de taxer ces produits venus de Chine, produits ultra fast fashion. Donc les vêtements seront forcément plus chers. Vous achèterez quand même ?
Je sais pas ce que ça fera sur les achats. Si ça sera vraiment bien une grosse majoration de prix, je pense que je continuerai quand même, je ne sais pas exactement.
On vous entend extrêmement mal, c'est dommage Catherine. En tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs qui font comme vous, qui achètent du neuf.
Hein. Oui, et vous nous le dites sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, une large majorité, je vais vous en lire quelques-uns. Nicolas nous dit « Moi j'achète que du neuf, je n'ai pas confiance aux vêtements d'occasion. » Françoise aussi achète des vêtements de qualité bien entretenus. Et comme ça, il dure pendant plusieurs saisons. On a quand même d'autres auditeurs comme Caroline qui nous écrit « Mes filles achètent beaucoup en seconde main ou sur les brocantes et elles en ont plein l'armoire à des prix imbattables, 2 euros le vêtement. » C'est vrai que c'est pas cher. Et Céline, elle, achète sur Vinted, mais des vêtements neufs avec étiquette. Vous savez, on peut acheter cette catégorie. Elle nous dit « Ça permet d'acheter bien moins cher qu'en magasin pour le même article. »
On achète de plus en plus de neuf, c'est une aberration économique et écologique. C'est ce que nous dira tout à l'heure Martial You dans la tablée du petit matin, 7h moins le quart. On en parle en tout cas ensemble ce matin. Vous êtes plutôt neuf ou plutôt seconde main, n'hésitez pas à nous appeler au 3210.
RTL, s'informer ensemble. Les pépites RTL.
Chaque matin, on vous ouvre nos archives pour retrouver ces sons et ces voix qui vous ont fait vivre l'histoire en direct. Le 18 juin 2015, c'est le choc aux États-Unis. Une tuerie éclate dans une église de la communauté noire à Charleston, en Caroline du Sud. 6 femmes et 3 hommes sont tués.
C'est l'information de la nuit. Aux États-Unis, une fusillade dans une église de Charleston.
La ville de Caroline du Sud avait été le théâtre en avril d'émeutes raciales. L'église était fréquentée par la communauté noire. Et on l'a appris il y a quelques minutes, il y aurait parmi les 9 victimes un sénateur américain. Nicolas Tarka, vous êtes aux États-Unis pour RTL.
Oui, Clementa Pinky, qui siège au Sénat de l'État de Caroline du Sud, est aussi pasteur de l'église qui a été visée hier soir à Charleston. Il figurerait parmi les 9 victimes qui se trouvaient dans l'église pour une lecture de la Bible. Toutes appartiennent à l'église épiscopale méthodiste africaine. Cette congrégation historique fréquentée par des Noirs américains fut même visitée par Martin Luther King. Gregory Millen, le chef de la police de Charleston, privilégie donc la piste du crime raciste. Le suspect aurait agi seul, il a réussi à prendre la fuite, il est décrit comme extrêmement dangereux. Il s'agit d'un jeune homme blanc d'une 20aine d'années, vêtu d'un sweatshirt gris à capuche. Il est toujours activement recherché. Cette tragédie intervient alors qu'Hillary Clinton se trouve à Charleston. La probable candidate démocrate tient plusieurs réunions dans la ville. Et hier soir, elle se trouvait à quelques 100aines de mètres des lieux du drame. Jeb Bush, côté républicain, a d'ores et déjà annulé ses meetings prévus ce jeudi dans Charleston.
La tuerie dans cette église de Charleston, c'était le 18 juin 2015. Vos pépites tous les jours dans les petits matins grâce au service des archives de RTL. Merci cette semaine à Florence Larcade.
RTL.
Voici un extrait de vos grosses têtes que vous retrouvez tous les jours entre 15h30 et 18h. Laurent Ruquier, toute son équipe et avec le professeur Buccella qui mesure la tour de Pise.
Vous racontiez qu'on pouvait mesurer la tour de Pise avec un baromètre.
Ah oui, ça c'est une histoire assez cocasse, hein, rocambolesque. Ah oui. Il y a plusieurs méthodes pour mesurer la tour de Pise avec un baromètre. Donc, faut m'arrêter quand je vous ennuie. Hein.
Ah non. On se régale.
On pourrait par exemple monter en haut de la tour et jeter le baromètre par-dessus bord. C'est une opération qu'on ne peut faire qu'une fois. Et avec le temps de chute, on a la hauteur de chute.
Bon, on n'est pas obligé de jeter un baromètre.
Ça peut être autre chose.
Bien sûr. Mais c'est une blague qu'on se racontait entre physiciens.
Vos grosses têtes avec Laurent Ruquier tous les jours, 15h30, 18h. Dans les grosses têtes, on a longtemps eu Amanda Lear. Eh ben, elle fête aujourd'hui ses 86 ans.
Oh, 86.
Voici un extrait d'Amanda dans les grosses têtes.
Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si Amanda vous compare à Salvador Dali, ça n'est pas un hasard, c'est que Amanda a été la muse de Salvador Dali.
Voilà. Okay.
Elle a connu Salvador Dali.
Et on s'est amusé.
Et en plus, Adil est l'anagramme de Dali.
Ah. Oh
Mais ça, s'il y a bien un truc que vous n'aviez pas imaginé, Adil, c'est repartir avec un mandalire.
Tout dépend du pinceau.
C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui, on ne s'en lasse pas, de Paul McCartney, grand, grand, grand nom de la chanson. 83 ans aujourd'hui, Paul. Sir Paul McCartney, s'il vous plaît.
Et vous l'aviez vu en concert il n'y a pas longtemps, non ?
Ouais.
Alors, c'était comment ?
C'est toujours un grand moment, c'est une célébration, c'est une sorte de messe. Hein. On vient écouter le grand Paul.
Je crois que vous êtes fan.
Ouais. Paul McCartney, il a partagé aussi les belles années 60 avec Françoise Hardy, dont on vous offre ce matin le double disque vinyle. C'est un intégral Vogue sorti vendredi. C'est pour vous, très beau cadeau, avec ses titres de 1962 à 1967.
Ce sont les années Vogue de Françoise Hardy. 5 années qui restent un moment d'exception dans sa carrière. Celui où elle explose aux yeux d'une génération qui est née pendant, ou juste après le deuxième conflit mondial, hein, et pour gagner
ce bel objet, bah, vous appelez le 3210. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent le double vinyle de Françoise Hardy. C'est pour vous. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Et autre cadeau, tout à l'heure, on fera gagner un séjour, Marina.
un séjour dans un hôtel spa 4 étoiles, thalassothérapie. Donc ce seront 3 jours, 2 nuits et en plus des soins d'hydrothérapie. Le bonheur, et ça se passera au Sable d'Olonne.
Mais le bonheur, c'est partout aujourd'hui, Marina, parce qu'il va faire beau et chaud partout. Hein,
j'aime bien la musique là, ouais, qu'on a, là, cette dernière demi-heure. Allez, bon, ben beau et chaud, c'est tout.
Faites attention dans les bouchons aujourd'hui.
Vous voulez quelques détails?
Allez. Moi, je vais prendre un mojito.
Sans alcool.
Sans alcool, heure, évidemment. 35 degrés à Nîmes cet après-midi. Il fera très chaud. Ce seront, ça vaut mieux un verre d'eau, hein, franchement. 33 à Montpellier et à Perpignan. 33 à Limoges et à Cognac. Vous aurez 32 à Grenoble cet après-midi, mais aussi à Toulouse et à Montélimar. En fait, par rapport à hier, on gagne 1 à 2 degrés en général. 31 au Mans et à Nantes, ainsi qu'à Nevers et à Lyon. Vous aurez 30 degrés à Paris et à Strasbourg. Il fera 30 aussi à Bastia et Clermont-Ferrand. 29 à Nice et Mulhouse, 29 à Biarritz et Nancy, 28 à Lille et à Metz cet après-midi, 25 à Brest, 24 à Caen et 22 à Cherbourg.
Et dans le ciel,
ce sera du bleu aujourd'hui, comme le t-shirt de William Galibert qui vient de rentrer en studio. Bleu dans le ciel pour quasiment tout le monde. Les petits bémols du matin quand même, notamment quelques brumes et brouillards à l'intérieur des Landes, vers les côtes nord bretonnes ou encore la Normandie, mais ça va vite se dissiper. Et puis dans l'après-midi, quelques cumulus, mais de beau temps, hein, ça va juste décorer le ciel du nord-est du pays. En revanche, quelques gouttes possibles. Alors, ce sera en montagne, sur le relief Corse et les Alpes du Sud, où là, les nuages pourront donner quelques gouttes. Mais partout ailleurs, bah, on garde le bleu.
Merci Marina. À suivre dans la prochaine demi-heure, l'explosion des produits dits du commerce équitable. Plus 25% l'an dernier. Le lait, le céréal, le miel, de plus en plus nombreux dans nos rayons. Quel produit équitable acheter? On verra ça avec Virginie Garin. Tout à l'heure, ce sera le conseil conso de ce mercredi matin. Excellent début de journée. Vous écoutez RTL. Il est 5h30.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
William Galibert est donc là pour nous présenter un nouveau journal. Bonjour William.
Bonjour à tous.
Avec cette question à la une ce matin, les États-Unis sont-ils prêts eux aussi à frapper l'Iran?
Réunion de crise qui s'est terminée à la Maison-Blanche et Donald Trump n'hésite plus à menacer directement Téhéran. Dans l'actualité, dans ce journal, Citroën qui s'enfonce dans le scandale des airbags, le texte qui veut modifier la définition pénale du viol qui arrive au Sénat, et puis le décès de Bernard Lacombe, champion d'Europe de football avec les Bleus et à jamais associé à l'Olympique Lyonnais.
Après votre journal RTL Autour du Monde, on va vous présenter les nouveaux drones kamikazes français exposés en ce moment au Salon du Bourget et qui pourraient très bientôt être utilisés sur les terrains de guerre.
RTL Matin.
Donald Trump réclame une capitulation sans condition du régime de Téhéran et les spéculations s'intensifient sur une éventuelle participation directe des Américains au conflit et aux frappes entamées par Israël il y a bientôt une semaine. Arnaud Touche, on vous retrouve, vous êtes notre correspondant RTL aux États-Unis. Une réunion de crise vient de se terminer à la Maison-Blanche.
Oui, une réunion qui a duré environ une heure et demie dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Autour de Donald Trump, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, mais aussi le secrétaire d'État Marco Rubio et celui à la Défense, Pete Hegseth. Aucune prise de parole à la sortie ni communiqué, mais selon la presse américaine, Donald Trump envisage clairement des frappes américaines ciblées sur les installations nucléaires iraniennes. Un porte-avions américain et plusieurs avions ravitailleurs ont d'ailleurs été déployés dans la région ces dernières heures. Les États-Unis ont annoncé cette nuit la fermeture de l'ambassade américaine à Jérusalem jusqu'à vendredi pour des raisons de sécurité. Hier soir, Donald Trump a menacé très clairement l'Iran. Sur son réseau social, il a demandé une capitulation sans condition et il a ajouté qu'il savait exactement où se cachait le guide suprême iranien, mais qu'il ne comptait pas le tuer, du moins pour le moment. Voilà ce qu'écrit le président. Après la réunion du Conseil national de sécurité à Washington, la Maison-Blanche nous a confirmé que Donald Trump s'était entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais sans donner de détails sur le contenu de cet appel.
Arnaud Touche, merci. Un conseil de sécurité à l'Elysée aura également lieu cet après-midi et c'est une nouvelle nuit de bombardement mutuel entre Iran et Israël. Les gardiens de la révolution iranien affirment avoir pour la première fois utilisé des missiles hypersoniques avec une portée et une vitesse supérieure à ceux qui avaient été tirés jusqu'à présent.
Et on note aussi que les Européens apparaissent de plus en plus divisés depuis la décision israélienne de frapper ce régime iranien.
Oui, d'un côté la France, Emmanuel Macron qui met en garde contre un changement de régime par la guerre et par les bombes. Il dit regardez ce qui s'est passé ces dernières années en Irak ou encore en Libye. Mais on a également entendu le chancelier allemand Friedrich Merz qui lui soutient ouvertement les frappes israéliennes. C'était en marge du sommet du G7 au Canada.
C'est le sale boulot qu'Israël fait pour nous tous. Ce régime de Mollah a apporté la mort et la destruction au monde avec des attentats, des meurtres et des massacres, avec le Hezbollah, avec le Hamas ou encore la livraison de drones à la Russie. Oui, c'est un sale boulot et j'ai le plus grand respect pour le fait que l'armée israélienne ait eu le courage de le faire. Sinon, nous aurions peut-être continué à subir pendant des mois et des années le terrorisme de ce régime qui aurait peut-être même fini par se doter de l'arme atomique.
Friedrich Merz, le chancelier, au micro de nos confrères de la télévision allemande ZDF. À Gaza, là, les forces israéliennes auraient tué plus de 50 personnes hier, rassemblées près d'un centre de distribution de nourriture. D'après les services de secours palestiniens, l'armée israélienne ne dément pas et dit être en train d'examiner les faits.
RTL, il est 5h33 et voilà le constructeur Citroën contraint d'immobiliser près d'un demi-million de voitures en Europe.
Oui, Citroën en urgence demande cette immobilisation immédiate pour toutes les C3 et pour toutes les DS3 en Europe qui sont encore équipées d'airbags Takata. Airbags qui peuvent exploser de manière intempestive et tuer. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Reims où une femme de 37 ans est décédée. C'est aussi ce qui est arrivé à Bruno Guérin, président de l'association des victimes ADV Airbag et qui a perdu son fils en 2023 à cause d'un airbag défectueux. Il était l'invité hier soir de RTL.
Les airbags Takata sont en cause depuis plus de 15 ans. Quand on a retrouvé un objet métallique dans le cerveau de mon fils qu'il a tué sur le coup, il y avait encore le numéro de série de cet airbag Takata. Et ça remonte à mai 2023. Depuis, on hurle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire que ce sont les airbags Takata qui sont responsables. Ce sont les constructeurs qui les ont montés sur leur voiture et qui n'ont rien fait depuis 15 ans pour les en sortir. Il y a des dossiers judiciaires en cours depuis des années. Il y a des rapports d'autopsie depuis des années. Il y a des plaintes depuis des années. Et donc, on peut plus dire maintenant que ce sont les airbags Takata qui sont en cause. Ce sont ou les pouvoirs publics qui n'ont pas fait leur travail, ou les constructeurs qui ne l'ont pas fait. Ça montre un cynisme absolu. Les gens se cachent derrière le petit doigt depuis trop longtemps.
Un témoignage au micro d'Yves Calvi, c'était dans RTL Soir. Le conclave sur les retraites va jouer les prolongations. Il devait se terminer hier soir, mais non. Une ultime réunion sera finalement programmée lundi prochain. Le patronat, le MEDEF, dit qu'il n'est pas encore certain d'y participer. Toujours les mêmes points de blocage avec les syndicats sur la prise en compte de la pénibilité, sur l'âge de départ sans décote. L'idée de François Bayrou d'une prime pour les seniors qui resteraient plus longtemps au travail, elle a été rejetée.
Et puis le Sénat examine cet après-midi, en première lecture, une proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée, une loi qui introduit la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles.
Oui, Olivier Bost, vous nous expliquez ce matin ce que ça veut dire concrètement et ce qui changerait si cette loi était également adoptée par le Sénat.
Dans le code pénal aujourd'hui, un viol, c'est tout acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Lors de l'enquête et ensuite devant un tribunal, la question est donc de savoir si la victime a été dans cette situation. En ajoutant dans la loi la notion de consentement, il s'agira de connaître plus explicitement le comportement de l'agresseur, s'il s'est soucié de savoir si la victime était d'accord ou non pour un rapport sexuel. Par exemple, si la victime n'a rien dit, pas réagi, parce qu'elle était en état de sidération ou dans un état second, ce sera considéré comme un viol, même sans violence sous menace. Le projet de loi parle donc d'un nécessaire consentement libre et éclairé. Concrètement, cette loi vise autant à faire évoluer la justice que les mentalités.
Olivier Bost pour RTL.
Les sports et l'actualité ce matin, c'est la disparition de Bernard Lacombe.
Champion d'Europe avec les Bleus, ancien buteur des Girondins de Bordeaux, mais surtout de l'Olympique Lyonnais dont il était devenu le directeur sportif, le compagnon de route de Jean-Michel Aulas dans les plus beaux moments du club au début des années 2000. Bernard Lacombe était hospitalisé depuis quelques mois, il avait 72 ans. Paris n'est plus qu'à une victoire du titre de champion de France de basket, succès
Sans problème, implacable.
92-67 hier soir contre Monaco. Sans coup férir, ça fait 2-0 dans cette série. Prochain match vendredi à Monaco.
Et basket toujours avec le début de l'Euro féminin en Grèce et aujourd'hui.
Oui, Turquie-France pour débuter la phase de groupe de la compétition. Les Françaises nous avaient régalé aux Jeux Olympiques l'été dernier avec une médaille d'argent. Elles veulent continuer tout simplement à l'image d'Iliana Rupert.
garder tout ce qu'on a pu faire de bien l'été dernier et voilà l'insuffler à celles qui n'étaient pas là, qu'elles s'imprègnent de cette énergie, de la mentalité aussi qu'on avait à ce moment-là et on est confiante. On sait qu'on a toutes les qualités pour, même si voilà il y a des absentes. Nous on fait avec les filles qui sont présentes. On a comme objectif d'aller chercher la médaille d'or, donc on n'a pas le temps de se trouver des excuses à droite à gauche. On a quand même ce qu'il faut dans l'équipe pour aller chercher cette médaille d'or cet été.
Et Turquie-France, c'est cet après-midi à 16h30. Enfin, rugby, le gros coup dur pour Bordeaux-Bègle, qui jouera sa demi-finale de top 14 contre Toulon, sans son ailier star Louis Biel-Biarré, mal remis d'une commotion. Ce match qui a lieu samedi soir.
Merci beaucoup, William Galibert. Acceptez-vous de revenir à 7h?
Sans problème.
Eh bien, tout à l'heure, avec plaisir.
RTL autour du monde.
Nous allons au salon du Bourget ce matin près de Paris, le salon qui a ouvert ses portes lundi. On vous présente ces nouveaux drones kamikazes. Ce sont des drones de fabrication française et ils sont exposés en ce moment. Ils pourraient très bientôt être utilisés sur les terrains de guerre, Valentin Boisset.
Oui, c'est à quelques dizaines de mètres du tarmac que ces petits engins sans cockpit ont fleuri dans les stands français.
Donc je suis Hugo Coquerel, responsable du business development chez MBDA France sur les affaires terrestres et aéroterrestres.
Devant nous, une sorte de petit avion noir, 3 mètres sur 3 mètres. C'est en réalité un drone kamikaze.
Alors c'est le One Way Effector, donc elle sera tirée depuis le sol, depuis une rampe, et visera un point GPS à 500 km.
Pour produire en grande quantité, MBDA s'est associé à un constructeur automobile français.
Les cadences que l'on envisage de produire sur cette munition sont de l'ordre de 1000 par mois pour générer des frappes à longue portée, ce qui entraînera de l'usure sur le champ de bataille.
Un fonctionnement qui rappelle le fameux Shahed iranien utilisé par l'Iran sur Israël, mais aussi par les Russes en Ukraine.
En Ukraine et sur le Moyen-Orient, des dizaines, des centaines de ce genre de munitions Bakou qui sont envoyées. Les retours d'expérience qu'on a avec l'Ukraine notamment montrent qu'il est nécessaire de retrouver de la technologie en masse à Bakou.
Les premiers drones français de ce type sortiront d'usine en 2027.
Reportage RTL autour du monde signé Valentin Boisset. Marina, on salue Pascal de Saint-Yne dans l'Oise, fidèle auditeur. 13 degrés ce matin et un ciel bien dégagé. Ça va durer, hein, Pascal?
Oui, le ciel va être dégagé pendant plusieurs jours. Profitez, puis le 13 degrés, profitez-en aussi parce que c'est plutôt agréable d'avoir des températures un petit peu plus fraîches que l'après-midi pour aérer. Nous avons sinon Philippe qui est à Brive-la-Gaillarde. Il nous a écrit un petit message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Donc il fait 14 degrés, mais surtout il nous dit un croissant dans le ciel et un croissant dans le café. Tu m'étonnes, les deux sont bien.
Pas la même taille.
Non, c'est pas la même taille, c'est pas le même goût non plus, enfin, à mon avis. Catherine est à Cannes et vous savez quoi, cet après-midi, elle a prévu de passer l'après-midi à la plage et de penser à nous. Ces deux programmes pas mal. On a Fernand qui, lui, est à Saint-Nicolas-de-Redon. C'est en Loire-Atlantique. La température est de 15 degrés. Guillaume est sur la 31 au niveau de Dijon. Il y a un ciel légèrement voilé. Il fait 16 degrés. C'est vrai que sur le nord-est, on pourrait avoir un petit voile, mais ça n'empêchera pas le beau temps quand même. Madeleine, elle, est à Belfort. Il fait 17 degrés. Et puis, vous parliez du SMS de Pascal. Pour envoyer un SMS, vous écrivez le mot matin, votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS.
Merci Marina, vous parliez de Catherine qui allait passer l'après-midi sur la plage, hein, c'est ça? Et on va parler justement de crème solaire avec Aline Perraudin qui va nous rejoindre dans un instant. Restez avec nous, vous avez aussi la parole au 3210, on vous attend ce matin, c'est vous qui faites l'actualité, à tout de suite.
RTL. En livre. Le festival du livre jeunesse organisé par le Centre National du Livre revient du 18 juin au 20 juillet. Partout en France, des milliers d'événements gratuits célébreront le thème « Les animaux et nous ». Lecture à voix haute, ateliers, rencontres d'auteurs, jeux littéraires rendront hommage aux petites et grandes bêtes de nos contes, albums et romans. Programme sur partirenlivre.fr. Faustine Bollard sur RTL.
Héros. On se retrouve ce soir à 20h sur RTL pour écouter une très belle histoire d'amour, l'histoire d'Alexandra, une jeune femme qui est tombée amoureuse de son médecin. Alors ça paraît improbable comme ça sur le papier et pourtant avec beaucoup de respect, ils ont fini par s'apprivoiser et par tomber très amoureux après de nombreux rebondissements. C'est vraiment une histoire digne d'un film romantique que vous allez écouter ce soir à 20h. À tout à l'heure.
Vous êtes près de 20 millions à écouter RTL chaque mois. Merci.
Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 euros. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault, oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault?
Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024.
RTL Matin.
Selon la presse américaine, cette nuit, Donald Trump envisage des frappes ciblées sur certaines installations iraniennes. C'est ce qu'on apprend. Il a réuni son conseil de sécurité après avoir demandé une capitulation sans condition de Téhéran. Il affirme que les États-Unis savent exactement où se trouve l'ayatollah Khamenei, mais qu'ils n'ont pas prévu de l'éliminer, du moins pour le moment. Emmanuel Macron, de son côté, met en garde sur une éventuelle intervention militaire américaine. Il réunira un conseil de sécurité cet après-midi à l'Élysée. Et puis, en France, on l'a appris hier soir, la disparition de Bernard Lacombe. L'OL, c'est grâce à lui. Voilà ce qu'écrit, voilà ce que dit ce matin dans le journal L'Équipe Jean-Michel Aulas, l'ancien président lyonnais qui lui rend hommage. Bernard Lacombe, dirigeant historique du club et figure du foot français qui s'est éteint hier à l'âge de 72 ans, buteur imparable. Il avait connu la gloire avec les Bleus, champion d'Europe en 1984.
Un témoignage, un avis. Venez le partager sur RTL.
Petit message concernant le problème des drapeaux palestiniens ou israéliens sur les mairies. Vu qu'on veut une solution à deux États, autant pouvoir mettre les deux drapeaux sur chaque mairie, israélien et palestinien. Comme ça, il n'y aurait peut-être plus de soucis et ce serait beaucoup plus équitable pour les deux peuples qui n'ont rien demandé. Merci, au revoir.
Vous réagissez à cette polémique autour de ces drapeaux palestiniens ou israéliens sur la façade de certaines mairies. Le drapeau israélien, par exemple, à Nice, le drapeau palestinien à Gennevilliers. Les préfets ont demandé à ces mairies de retirer ces drapeaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? On en parle ensemble.
On va en parler avec un auditeur de Nancy. Bonjour Kader Ali.
Bonjour Kader Dali. Oui.
Bonjour, ah pardon, Kader Dali. Excusez-moi.
Non, bonjour. Pas de souci. Bonjour tout le monde.
Alors, quel est votre avis sur cette question, cher Kader Dali?
Mon avis, moi je me dis que sur la devanture ou sur le mât d'une mairie, il ne doit avoir que le drapeau français. Je ne comprends pas qu'on est devenu que les mairies soient devenues, ou le fronton des mairies soit devenu un peu le mur des revendications. vous allez en Italie, ou vous allez en Suisse, ou vous allez ailleurs, on ne voit que le drapeau du pays. Moi, je pense que cet incident, parce que pour moi c'est un incident, qu'il soit israélien, ukrainien ou autre, parce qu'avec toutes les guerres qui se déroulent dans le monde, on va finir par avoir des magasins de drapeaux sur les devantures de mairies.
c'est vrai qu'il y a eu des drapeaux ukrainiens sur les mairies. Il y a eu des drapeaux ukrainiens sur les mairies.
Oui, je blague, même si c'est triste tout ça, parce qu'il y a des millions de morts, mais je me dis que c'est l'occasion de mettre une loi pour clarifier ce sujet qui est peut-être un flou juridique, et pour moi, il n'y a qu'un drapeau sur une mairie, c'est celui de la France. Pourtant, je suis attristé par rapport à ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Palestine et en Israël, mais je me dis que à un moment donné, pour éviter le trouble de l'ordre public, parce que chacun voudra y mettre son drapeau, on va pas en finir, je pense que l'État, à un moment donné, doit siffler la fin de la récréation, parce que ça devient fou. À Nancy, il y avait un drapeau palestinien, c'est pareil, bon, ça a pas fait de grosse com', mais à un moment donné, je pense que l'État doit reprendre les rênes de la loi. On parlait de laïcité, ça n'a rien à voir avec la laïcité, j'ai entendu ça dans les radios hier. Pour moi, c'est pas la laïcité, c'est l'ordre et la loi, et on remet un drapeau. Si après, il faut un autre endroit, vous savez, si je puis me permettre de prendre quelques minutes de plus, dans les panneaux...
Quelques secondes.
Oui, alors, si on voit les panneaux politiques qu'on peut avoir, il y a des panneaux, c'est marqué affichage autorisé, les affichages libres, et puis il y a d'autres qui sont réglementés. Moi, pour moi, il faudrait trouver d'autres endroits pour mettre ces drapeaux de revendication.
Pas de drapeau autre que le drapeau français, c'est ce que vous dites Kader Dali ce matin, et c'est ce que disent en fait tous les auditeurs. Hein, Tom. Ah oui,
ils sont assez d'accord sur le groupe Facebook. Laguette nous dit, mais la question ne se pose même pas. Flo nous dit, on est en France, donc drapeau français. Bernard aussi, les seuls valables, c'est le drapeau de la ville, le drapeau français et européen. Vincent aussi est d'accord, il nous dit, d'autant que la Palestine n'est pas encore reconnue comme un État, donc ce drapeau n'a rien à faire sur le fronton d'une mairie.
Il y a eu une décision de justice il y a un an sur les drapeaux ukrainiens, qu'on a beaucoup vu sur les façades des mairies, et la justice a tranché. Elle a dit que mettre un drapeau ukrainien sur la façade d'un bâtiment public, c'était pas une revendication politique, c'est un symbole de solidarité envers une nation victime d'une agression. Je vous lis la décision du tribunal administratif de Versailles du 20 décembre dernier. Donc vous voyez, c'est pas un sujet facile à trancher non plus. Merci Kader Dali, excellente journée à vous.
Bonne journée.
On vous dit à bientôt, il est 5h47. Merci.
RTL Matin,
avec Jérôme Florin.
Ça va beaucoup mieux.
Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver avec les beaux jours en ce moment et les fortes températures. Vous avez décidé de nous parler de la protection solaire parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues qui persistent à ce sujet.
Oui, et cela peut mettre notre peau en danger. Par exemple, on entend encore dire qu'une crème solaire avec un indice 50 protège deux fois plus qu'une crème avec un indice 25. Bah, c'est faux. En laboratoire, un indice 50 arrête 98% des UVB et en laisse passer 2%. Mmh. Un indice 25, lui, en stoppe 96% et en laisse passer 4%.
Bah, c'est pas énorme.
Non, la différence n'est pas énorme. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie réelle, la protection est souvent bien moindre parce qu'on n'applique pas assez de produits. En plus, elle ne dure qu'un temps limité. C'est pour cela qu'on dit de réappliquer un solaire toutes les deux heures. La crème solaire, faut savoir, c'est pas un bouclier permanent. Elle s'altère avec la transpiration, le frottement des vêtements ou de la serviette et aussi avec les baignades.
Même si on met une crème waterproof ?
Oui, parce qu'un produit waterproof, résistant à l'eau, ça veut seulement dire qu'il va un peu mieux résister à l'eau. Il conserve au moins 50% de son indice de protection après deux bains de 20 minutes. En clair, ça garantit une meilleure adhérence de la formule sur une peau mouillée, mais ça n'offre pas une protection suffisante. C'est pourquoi il faut réappliquer du produit après une baignade, et surtout si on s'est essuyé avec une serviette.
Encore plus. Et pour ce qui est de l'indice de protection, Aline, qu'est-ce qui est préférable alors ?
Un indice 30 minimum avec le logo UVA dans un cercle ou la mention large spectre, c'est important de voir ça sur l'emballage.
Large spectre.
Voilà, pour être sûr d'être protégé à la fois contre les UVA et les UVB. On opte pour un indice 50 ou 50 plus quand on a la peau qui prend facilement des coups de soleil, pour les enfants et si le rayonnement est particulièrement fort, comme en montagne ou sous les tropiques par exemple. Et comme me l'a dit le professeur Brigitte Drénaud, dermatologue à Nantes, il faut bien comprendre qu'un indice 50, c'est pas une carte blanche pour s'exposer très longtemps. Certes, il va arrêter 98% des rayons UVB, mais il ne filtre donc pas totalement les UV. Donc, vous l'avez compris, plus on passe de temps au soleil, plus on augmente la quantité d'UV reçue. Parce que aucun produit solaire n'est un écran total, on recommande donc de ne pas s'exposer entre 12h et 16h, c'est quand l'ensoleillement est le plus intense. Mmh. Il faut savoir, la meilleure des protections, ça reste le vêtement. Donc on protège les enfants avec un chapeau, un t-shirt ou un maillot anti-UV, sans oublier les lunettes de soleil, et même sous un parasol. Oui, quand le ciel est voilé, exemple avec des nuages un peu en hauteur, à une protection est nécessaire parce que les UV peuvent traverser des nuages et un parasol clair et fin et se refléter sur le sable.
Rapidement, en quelques mots, la différence entre UVB et UVA, il y a quelque chose qui est plus dangereux que l'autre ?
Alors, les UVB, on dit qu'ils donnent les coups de soleil. Les UVA, ils sont responsables du vieillissement de la peau, mais tous les deux peuvent provoquer des cancers cutanés. Donc, il faut vraiment se protéger des deux.
Pour finir, vous disiez qu'on avait tendance à ne pas se mettre assez de crème.
Ben oui, en général, on en met 2 à 4 fois moins que nécessaire. Et souvent, on oublie certaines zones, alors qu'il faut aussi protéger la nuque, les oreilles, les pieds, le dos des mains. La dose recommandée, c'est vrai que c'est beaucoup. Pour protéger tout le corps, il faudrait mettre 6 à 8 cuillères à café de crème. Ouais. Et si on applique un spray, il faut compter environ 15 pulvérisations par zone pour la jambe, le dos, et surtout bien étaler avec les mains après. Et pour l'huile solaire, il faut l'appliquer jusqu'à ce que la peau soit visiblement lustrée.
Merci beaucoup Aline, on se retrouve demain, on restera sur la plage puisqu'on parlera des tongs.
Ah oui, bien pratique, mais on va voir si elles sont bonnes ou non pour les pieds.
RTL.
Et Marina, comme promis, on vous offre maintenant, on peut y aller en tongs d'ailleurs, à l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest en Vendée.
Exactement, c'est un thalasso et spa qui est en face de la mer, donc c'est parfait. Et ce que l'on vous offre, c'est une escale découverte. Alors une escale découverte, ce sont 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes, avec en plus des soins d'hydrothérapie. Ce sera parfait pour profiter, j'y suis. Mais je ne vous ai pas gagné, je ne vais pas pouvoir gagner. Vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble d'ailleurs, vous allez sur hotel-côte-ouest.com. Et pour gagner cette escale découverte, Jérôme, que faut-il faire ?
Il faut envoyer le mot cadeau au 64 900, 35 centimes par SMS. Bonne chance à tous, tirage au sort en fin d'émission.
RTL, le conseil conso.
Avec vous, Virginie Garin. Bonjour Virginie.
Bonjour, bonjour à tous.
Les ventes de produits du commerce équitable ont bondi de 25% en 2024, grâce surtout aux produits français, lait, céréales, miel, de plus en plus nombreux dans nos rayons. Alors, quels produits équitables acheter? C'est le conseil conso de ce matin. Déjà, peut-être rappeler ce que veut dire équitable, Virginie.
Alors, que le producteur a été correctement payé, on a pris en compte ses coûts de production et tout cela est contrôlé par un organisme certificateur. Il y a 30 ans, c'était des produits du bout du monde, du café, du thé, du cacao. De plus en plus, un tiers du commerce équitable aujourd'hui, eh bien, ce sont des produits français, du lait, des biscuits, des chips bretonnes, des lentilles de Charente-Maritime ou du miel du Jura.
Alors, comment être sûr que ce sont des produits vraiment équitables? Il y a des labels qui sont fiables?
Eh bien, il y a une loi en France qui fixe des règles, il y a des contrôles et un collectif avec 32 marques. Allez voir sur leur site, hein, commerceéquitable.org, Alter Eco, Max Havelaar, Agriétique, Biocop, Éthicable et plein d'autres. Ces marques font vivre 12 000 agriculteurs et producteurs en France. Et puis, il y a aussi des critères environnementaux, beaucoup de bio dans le commerce équitable.
Et c'est plus cher ?
Parfois oui, mais la matière première dans un produit, c'est souvent une petite partie du prix. Donc dans ces filières, les transformateurs et les distributeurs acceptent de réduire leurs marges. C'est un peu une loi Egalim qui fonctionne, le commerce équitable. Donc les prix sont souvent très raisonnables et les produits de qualité, alors ça représente pour l'instant 0,5% du commerce alimentaire en France, une goutte d'eau, mais ça progresse très vite. Il y a des coopératives qui veulent mettre leurs membres agriculteurs à l'abri de la spéculation mondiale, des cours qui font du yo-yo, donc ça pourrait être beaucoup moins marginal dans quelques années.
Merci beaucoup Virginie Garin.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe, que vous retrouvez tous les jours avant 8h, en direct, on parlait hier des conseils pour être en forme à la retraite.
Comment être en bonne santé à la retraite? Je devance Jimmy Mohamed. Eh bien, en ne foutant pas grand-chose dans sa vie professionnelle, regardez-moi. Physique de rêve, l'œil rieur du couillon satisfait. Mon secret? La glandouille. Des années à bosser 5 minutes par jour dans un studio climatisé de Neuilly. Regardez, on est en pleine forme. Et quand on parle des métiers pénibles, je ne parle pas des huissiers, des opérateurs téléphoniques qui t'appellent 8 fois par jour pour répondre à une enquête sur les Thermomix, les représentants d'assaut qui t'accostent dans la rue pour te demander 8 euros par mois pour lutter contre le sida alors que tu n'as pas touché une femme depuis 20 ans, ni autre métier pénible, les accordéonistes du métro qui jouent El Condor Passa. Ça, c'est pénible. 7h du mat, ligne, ils sont très pénibles. Au QTF, Rotaillou, allez hop là. Cela dit, il y a des vrais...
Station Montparnasse, hein. On les reconnaît, ouais, station Montparnasse.
C'est Montparnasse, on les embrasse. Cela dit, il y a des vraies avancées, des efforts de fait par le patronat, des petits efforts sur les mères de famille, des efforts pour les métiers pénibles, on l'a dit, sur les vibrations comme le marteau-piqueur, puis il y a des efforts aussi, j'ai lu dans l'article, pour les personnes en situation de handicap. Et si t'es une femme enceinte qui fait du marteau-piqueur et coup de bol, t'es unijambiste, là c'est jackpot.
Philippe Cavrivière, que vous retrouvez tout à l'heure, juste avant 8h. Marina, aujourd'hui beau.
Ouais.
Et la couleur du thermomètre, rouge, vous êtes d'accord?
Oh, pour certains, oui, ce sera du rouge.
RTL. Tout savoir sur la cardiomyopathie hypertrophique avec l'Alliance du cœur et le soutien de Bristol Myers Squibb. Inconnue des Français, la cardiomyopathie hypertrophique est une maladie cardiaque qui touche environ une personne sur 500. Laurence, vous en êtes atteinte? De quoi s'agit-il?
C'est une maladie héréditaire. En fait, les parois du muscle cardiaque s'épaississent, ce qui peut gêner la circulation du sang vers le corps et entraîner des complications comme l'insuffisance cardiaque ou l'AVC.
Quels sont les symptômes?
L'essoufflement. Monter des escaliers ou porter un pack d'eau devient insurmontable. Et aussi des douleurs dans la cage thoracique et même des pertes de connaissance.
Et que conseillez-vous?
Si vous êtes essoufflé, consultez votre médecin. Les progrès récents peuvent améliorer notre quotidien et éviter des conséquences graves.
Merci Laurence.
Merci.
Plus d'infos sur bms.com/fr.
Laurent Deutsch sur RTL, entrez dans l'histoire.
Tout à l'heure, hissez les voiles et sortez les sabres. Car on prend la mer avec un homme qui sent la poudre, le sel et la liberté, Jean Bar, le corsaire au service du roi soleil. C'est pour tout à l'heure, à 15h, d'entrer dans l'histoire sur RTL.
Entrez dans l'histoire, c'est l'émission d'histoire la plus écoutée de France. Renault.
Professionnel, vous hésitez à passer à l'électrique ?
Avec une autonomie jusqu'à 460 km et une charge utile jusqu'à 1625 kg, Renault vous accompagne dans votre transition avec sa gamme d'utilitaires e-tech électriques assemblées en France. Découvrez Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master. En ce moment, l'électrique est au prix du diesel.
Master selon version, cycle WLTP. Véhicule utilitaire électrique neuf au même loyer que leur équivalent en version diesel pour contrat de crédit bail si accordiaque. Offre non cumulable réservée aux professionnels du 1er au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr.
RTL Matin avec Jérôme Flora.
C'est Marina, avant de détailler le temps de ce mercredi, somme toute assez simple, on a cette requête de Frédéric.
Oui, Frédéric des Pays de la Loire qui nous dit bah, j'écouterais bien un extrait de Chic le Fric. Alors j'ai demandé aux réalisateurs Hervé et Pierre-Yves s'ils avaient ça dans leur panier. Et oui.
Eh, ça change l'ambiance dans le studio. Ouais. Merci Fred, okay, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas.
Ouais, parce que c'était glacial dans le studio et là, pof, il y a une bonne humeur.
Glacial, pas tout à fait, avec le temps qu'il va faire aujourd'hui, avec encore des températures chaudes.
Ah oui, oui, oui. On prend en fait 1, 2 degrés par jour, ça va continuer comme ça jusqu'à lundi prochain. Donc oui, les températures seront en hausse et on atteindra les 35 degrés à l'ombre cet après-midi à Nîmes. Vous aurez 33 à Perpignan et à Cognac, il fera 32 à Marseille, à Grenoble et à Toulouse. 31 au Mans, à Nantes, à Dijon et à Lyon. 30 degrés pour Paris cet après-midi, mais aussi à Strasbourg. Il fera 30 à Bastia et Ajaccio, 29 pour Nice, 28 à Lille et à Metz, 25 à Brest, 24 à Caen et 22 à Cherbourg.
Et dans le ciel ?
Oh, ce sera du bleu qui va dominer. Alors ce matin, pour les petits bémols, on a quelques brumes et brouillards quand même. Vers le nord de la Bretagne et la Manche, d'ailleurs, il n'y a que 200 mètres de visibilité, par exemple à Lannion, mais ça va vite se dissiper. Sinon, partout ailleurs, ce sera du bleu ce matin et ça durera toute la matinée. Dans l'après-midi, on garde ce bleu. Peut-être quelques cumulus sur le nord-est du pays, mais qui ne gâcheront pas l'impression de beau temps. Et puis à signaler, pour dire quelque chose, que peut-être une averse sera possible en montagne sur les Alpes du Sud ou encore le relief corse, mais c'est même pas sûr et certain. Partout ailleurs, bah, on conserve ce bleu.
Et puis ça va durer encore plusieurs jours.
Lundi, donc on a jusqu'à lundi inclus, ouais. En fait. Et puis il fera de plus en plus chaud, surtout. Donc vague de chaleur, ça c'est assuré à partir de demain, puisqu'on aura des températures allant jusqu'à 38 en Méditerranée et dans le